Ce qui nous importe, c'est l'histoire. La grande, avec un H majuscule.
1965, la première présidentielle de la 5e.
Ce dialogue qui commence aujourd'hui entre nous, je l'espérais depuis longtemps.
Je suis le candidat des chiens battus.
Mes amis, mes copains, votez pour Marcel Barbu.
Cela n'a pas été simple de parvenir jusqu'à vous.
Je suis Jean Le Cadieux. Je ne suis pas un héros de légende.
Il s'agit que dorénavant le président de la République soit élu au suffrage universel.
85% de participation à l'idée de pouvoir choisir eux-mêmes pour la première fois entre 6 candidats à l'Élysée, la curiosité des Français est comme piquée. Sans doute le général a-t-il dans un premier temps conçu ce scrutin comme un référendum de plus. Mais les électeurs se sont pris au jeu et entendent se reclasser dans les couloirs de leur choix, quitte à revenir dans leur famille d'origine politique, telle qu'elle était avant le gaullisme. Comme le centriste Le Canuet, François Mitterrand, qui a fédéré les gauches, communistes et non-communistes, va en tirer bénéfice. Lorsque commence la campagne officielle à la radio et à la télévision, cette curiosité devient une passion. Depuis des années, l'information était contrôlée. Et soudain, chaque candidat d'opposition dispose de 2 heures d'antenne. Les Français ont l'impression de sortir de la prohibition. Seulement, un tiers des foyers dispose alors d'un petit écran, mais on organise des téléparties entre voisins. Le général de Gaulle ne l'emporte qu'au second tour. Celles qui ont été les mieux élues, peut-être, ce sont la radio et la télé, devenues les mamelles de la France.
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Avec Éric Roussel. Bonjour à vous, Éric Roussel.
Bonjour.
Alors, vous avez cerné le sujet, hein. Vous avez fait une biographie de Georges Pompidou, une biographie de De Gaulle, une biographie de Jean Monnet, une biographie de Mendès France, la plupart en poche, PMF c'est chez Gallimard, et vous sortez chez Lafon une biographie de François Mitterrand. Biographie fondée sur des archives, aussi sur des rencontres. Hein.
Oui, sur des rencontres avec le principal personnage aussi, oui.
Ouais. Alors, de tous les candidats, vous n'avez pas connu Marcel Barbu, peut-être?
Non, j'ai pas...
Candidat qui avait une pensée sphérique, 1% des voix.
Ouais. De tous les candidats, oui, j'ai rencontré à peu près tout le monde, sauf effectivement Barbu et Marcel Assis.
Qui a fait un peu plus d'1% des voix, dont on se bornera à dire qu'il était le plus grand des candidats, parce qu'il mesurait 2,03 m. Est-ce qu'on peut commencer par celui qui ne s'est pas présenté, qui s'est comme auto-exclu de la vie politique depuis le début de la 5e République, et qui en même temps avait une pensée sur la République moderne, je veux dire Pierre Mendès France, qui disait que la République, ça devait être une démocratie généralisée où on pouvait expliquer aux électeurs les choix politiques dans la compréhension des enjeux économiques. Et pour lui, l'élection présidentielle au suffrage universel ne le permettait pas.
Oui, Pierre Mendès France n'a jamais varié sur ce point. Il a toujours été contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Et il était, comme vous l'avez dit, partisan d'une république dite moderne. Il avait aussi, dans son ADN, un fort attachement au parlementarisme. Et c'est ça qui faisait qu'il était très réticent envers l'élection présidentielle, avec tous les risques de populisme qu'il avait perçu d'ailleurs et qu'il ne voulait pas assumer.
La modernité, elle va se nommer un moment Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud, je sais pas, aujourd'hui elle se nommerait Macron, enfin, à l'Express, que tous deux dirigeaient, il s'agissait d'imaginer un groupement de la gauche et du centre dans une perspective moderne. Et ils avaient lancé, Giroud et JJSS, Jean-Jacques Servan-Schreiber, une campagne autour de Monsieur X, qui portait le masque de fer.
Oui, alors effectivement, pendant des mois et des mois, on s'est demandé, enfin des semaines plus exactement, on s'est demandé qui était ce monsieur X que l'Express poussait, et c'était le maire de Marseille, donc Gaston Defferre. Et c'était, En théorie, cette équipe, c'était assez bien choisi, puisque c'était un socialiste européen, atlantiste, donc il pouvait espérer faire l'unanimité sur son nom de la gauche modérée, enfin atlantiste et européenne, à ce qui était à l'époque le centre, c'est-à-dire surtout le MRP, le mouvement démocrate chrétien.
Mais au vieux parti socialiste, la majorité était attachée au symbole de la lampe de mineur, il y avait ça sur le bureau du secrétaire général, plutôt qu'au voilier partant à l'aventure du camarade de fer. Quand le camarade de fer échoue, il reste une autre possibilité, c'est celle de la fédération des gauches. Et voilà que surgit un homme entre deux âges et deux tailles, qui revient de très loin, à l'ambition disponible, et que les communistes trouvent bien intéressant.
Oui, c'est surtout... À partir du moment où de Fer échoue, il y a une sorte de vide, et François Mitterrand, qui depuis des années est là, j'allais dire tapis un peu dans l'eau, comprend que c'est le moment d'intervenir. Et il s'auto-investit. Il applique la stratégie à laquelle il a réfléchi déjà depuis 59. C'est-à-dire une alliance, enfin, un appui, en tout cas, du Parti communiste.
Mais le Parti communiste est beaucoup plus puissant que François Mitterrand, qui n'a pas de troupes. Oui, mais le Parti communiste hésite à se compter sur un candidat à la présidentielle.
Oui, et puis il pense, alors ça évidemment ça fait rire rétrospectivement, mais il pense que Mitterrand, qui sort de l'affaire d'Observatoire...
Faux attentat oui, ou attentat manqué.
N'est pas encore très très loin. Mitterrand n'a pas du tout l'aura qu'il aura par la suite, et notamment après l'élection de 65. Donc c'est un candidat assez faible, et Charles Fitterman, qui était à l'époque le secrétaire de Valdecrochet, le secrétaire général du Parti communiste, raconte qu'ils étaient assez... Crochet était assez content finalement que ce soit Mitterrand parce qu'il pensait pouvoir le manœuvrer.
Alors le programme de Mitterrand en politique extérieure c'est « Je combats le général de Gaulle », en politique intérieure « Je combats le général de Gaulle » puisqu'il incarne le pouvoir personnel.
François Mitterrand, âge 49 ans, 3 tentatives d'évasion pendant la guerre, maire de Château-Chinon et député de la Nièvre, 12 fois ministre depuis qu'il le fut pour la première fois à 30 ans. Ce fils de cheminot est marié et père de 2 enfants. Si sa femme aime les bêtes et les fleurs, ce candidat dans la course à l'Élysée a la passion de la politique. Signe particulier, tennisman plus qu'escrimeur, pour couper la route de ses adversaires, compte beaucoup sur ses bottes secrètes.
Je suis candidat contre le général de Gaulle, et contre lui seul, car lui seul compte. C'est un régime propriété personnelle du général de Gaulle. J'ai l'impression que si le chef de l'État, malgré les atteintes de l'âge, veut encore 7 ans de pouvoir, c'est d'abord parce qu'il ne voit autour de lui et parmi ses amis personne qui soit digne d'assumer la fonction. Et c'est bien ce qu'il voulait dire l'autre jour, lorsqu'il proclamait « moi » ou le néant.
De l'auteur du coup d'État permanent, c'est un livre de 1964, il faut dire qu'il s'appelle Mitterrand ou Mitterrand.
Il disait que ceux qui l'appelaient Mitran étaient les gens de droite.
Oui, ses adversaires. Ça voilà. Se sent d'ailleurs dans la présentation par les actualités cinématographiques Gaumont-Pathé qu'on a entendu en tête de ce son. L'extrême droite était là depuis avril 64, renforcée par le mécontentement des rapatriés et des déçus de l'Algérie française. Et elle avait un candidat qui s'appelait Jean-Louis Tixier-Vignancourt, que vous avez connu aussi.
Je l'ai rencontré une fois, oui. Oui,
c'est joyeux de rire.
Oui, ça n'était pas absolument apparent à la télévision. C'était surtout un avocat, très grand avocat. Ça,
alors, revenant de Vichy, où il avait occupé des fonctions en 1940 à l'information, défenseur des condamnés de l'Algérie française. Et le directeur de campagne s'appelait
Le Pen.
Oui. Et il avait des tas de ressources imaginatives. Le Pen, par exemple, il avait décidé de faire une tournée sur les plages.
Oui, je sais, c'était peut-être l'idée de Tixier Vignancourt lui-même.
Peut-être, mais enfin, en tout cas, si on entend Le Pen, c'était la sienne.
Le Pen l'a animé.
Oui. Le Pen est revenu d'ailleurs très râlé de cette tournée d'été, et Tixier Vignancourt peut-être revigoré.
Voyez-vous, tout le monde a une légende. Vous avez Tixier Vignancourt raciste ou antisémite. Vous avez même des tracts innombrables. Je suis toujours commissaire aux questions juives à Vichy. Alors que ce n'est pas vrai, mais c'est la légende. Vous... Seulement, je m'excuse d'insister.
Je vous en prie.
Ça sert beaucoup, les légendes, dans la politique française. On va construire un loup-garou, une bête du Gévaudan, comme disaient nos grands-mères, ou un serpent de mer, c'est le monstre. On bâtit le monstre, c'est très utile. Et puis, heureusement, petit à petit, on s'aperçoit que l'intérêt sordide qui a présidé à la construction du monstre, c'est tout simplement parce qu'on ne pouvait pas discuter sérieusement avec lui de son programme et de ses idées.
TV, c'est le surnom qu'on lui donne. Et c'est pas mal à la radio, la voix de bronze. À la télé, Jean-Marie Le Pen dit « il a une hure plutôt qu'une tête ». Et Françoise Giroud assassine. Ajoute, il est venu nous parler d'Henri IV avec la tête de Ravaillac.
Oui, il y a eu une, j'allais dire un temps d'adaptation des hommes politiques à la télévision, qui est devenu le média le plus important. Et même Mitterrand, à l'époque, était loin de maîtriser ce, il était comme Tixier Biencourt, c'était un grand orateur, mais plutôt un orateur de préau. Et c'est d'ailleurs là qu'il a mené beaucoup campagne sur le terrain, dans les grands meetings, comme dans le Sud-Ouest, enfin, dans la tradition de la gauche de l'époque. Et au fond, le candidat qui s'est le plus adapté aux nouveaux médias, c'est le candidat centriste, c'est le Kenweck.
Et le petit
d'où la surprise qu'il a créée.
Le petit François Bayrou, qui avait 14 ans, allait voir chez son oncle, à la télé, la campagne, et en effet, pour lui, la révélation se fut.
Jean Le Canuet, ancien professeur agrégé de philosophie, ancien secrétaire d'État et ancien député, conseiller général, puis sénateur de la Seine-Maritime, premier adjoint au maire de Rouen depuis cette année. Âgé de 45 ans, il est marié et père de 3 enfants. Sportif, photogénique et souriant, il est le plus jeune des challengers.
Mais il me reste à vous dire l'essentiel. Pourquoi suis-je candidat à la présidence de la République? Parce que, désormais, la responsabilité de notre avenir s'établit à l'Élysée et que l'avenir, c'est l'affaire de notre génération. Ma candidature est celle qui ouvre les voies de l'avenir.
Et il pose très souvent avec sa famille. Voici en quelques mots l'homme qui est devant vous. Il se décrit un peu comme un candidat américain à la présidentielle.
Oui, il y a l'idée de se rattacher un peu au mythe Kennedy. Il faut avec le sourire éclatant, etc. Il avait on dirait aujourd'hui un look, oui, qui rappelait un peu l'ancien président des États-Unis.
Kennedy-Yon.
Oui. Je ne sais pas si c'était pas Mauriac qui disait ça. Oui, je ne sais plus.
Vous avez beaucoup mieux que moi. Et Mauriac suivait de très près dans le bloc-notes du Figaro cette campagne. Et Le Canuet avait pris un cabinet de communication.
Oui, il y avait qui était dirigé par Bongrand.
Voilà, avec un circuit vidéo intérieur dans ses bureaux.
Oui, c'était déjà professionnalisé. Il n'y a aucun doute que d'autres candidats, effectivement, comme Tixier Vignoncourt ou même Mitterrand, eux travaillaient avec les moyens du bord et n'étaient pas complètement adaptés aux nouveaux médias.
Mais vous vous rendez compte qu'il est 13h44 et qu'on n'a pas parlé de l'essentiel, c'est-à-dire des programmes, des idées de l'état de la France à l'époque. François Mitterrand disait « De Gaulle s'occupe de la France, moi je vais m'occuper des Français ». C'était pas complètement faux. Au Premier ministre, Georges Pompidou était laissé la charge de s'occuper des Français. Et qu'est-ce qu'il avait fait dans les 3 années qui avaient précédé cette élection présidentielle depuis sa nomination à Matignon en 62?
Il y avait eu l'amorce la poursuite aussi de ce qui avait été fait sous la 4e République, de bonne organisation du pays, avec des retards, notamment dans le domaine du logement, ce qui provoquait certains mécontentements sociaux. Mais au fond, et il y avait aussi le plan de stabilisation qui avait été, on oublie, le plan de stabilisation voulu par le général que Valéry Giscard d'Estaing avait prolongé, et ce qui avait provoqué une sorte de conflit avec le Premier ministre, avec Georges Pompidou. Et ce conflit s'est traduit par la mise à l'écart en 1900, après l'élection présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing. Donc il y avait des problèmes internes à la majorité.
Et puis il y avait quand même problème de justice sociale, parce que Pompidou, vous le décrivez dans vos livres, Éric Roussel, distribuant l'industrialisation dans le territoire, mais la redistribution sociale.
Oui, il y avait ce problème. Il y avait tout un. Et puis la gauche était écartée depuis longtemps. Elle n'avait pas été. Il y avait le gouvernement Guy Mollet. Enfin, est-ce qu'on peut le considérer? Enfin, encore que sur le plan social, le gouvernement Guy Mollet est accompli un.
Mais là, vous remontez bien avant la Ve République. Mais dans les années années 60.
C'est parce que j'essaye de remonter aux périodes dans lesquelles la gauche a été présente. Et c'était la dernière fois. Enfin, sauf au début, quand le général de Gaulle est revenu, le Parti Socialiste était associé. Mais c'est vrai qu'à partir de... à partir de 1962, à partir de la nomination de Pompidou, l'accent a été mis surtout sur la modernisation et sur la... Il y avait aussi un contexte assez porteur. Donc on se laissait un peu... Et l'un des ressorts de la campagne de François Mitterrand a été justement... Enfin, il y avait deux ressorts. Il y avait la lutte contre ce qu'il appelle, dans ses allocutions, le pouvoir personnel, c'est-à-dire le rappel de toute cette sensibilité républicaine qui était encore très très vive à l'époque, dans la tradition de la Troisième République, et qui était profondément hostile à De Gaulle. Et puis, fatalement, les injustices sociales qui provoquées par ce grand projet de modernisation.
Le 4 novembre, enfin, le général de Gaulle décide de se présenter. Il l'annonce dans une allocution télévisée. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour le suspense et une forte participation.
En liaison avec le CIC, le Centre d'information civique, France Inter organise une campagne de lutte contre l'abstention. Nous avons demandé à des personnalités du monde politique, des arts et des lettres, leur opinion sur l'abstention. Aujourd'hui, c'est l'avis de la copine Françoise Hardy.
Oui, je voterai. Parce que ça m'intéresse de savoir qui y aura à la présidence de la République et que j'aime mieux que ce soit un tel plutôt qu'un tel, donc j'irai voter pour lui.
Ils ont voté et puis après. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais, ou suisse ou con, ou bien insecte, partout ils sont confédérés. Faut les voir à la télé urne avec le général Frappard et leur bulletin dans les burnes et le mépris dans un placard. Ils ont voté puis après. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Nous parlons 50 ans après de la campagne présidentielle de 1965 avec Éric Roussel qui vient de publier chez Lafont une biographie de François Mitterrand. Ferré était très isolé dans sa position anti-électoraliste et Françoise Hardy, nous les garçons et les filles, avait beaucoup de disciples à l'époque. La participation était généralement forte à ce moment de la vie politique française.
Oui, pratiquement, je crois que tous les scrutins, sauf peut-être les scrutins locaux, suscitaient beaucoup d'intérêt. Et évidemment, c'était encore renforcé par le fait que le général de Gaulle, qui était une personnalité évidemment exceptionnelle, et qui suscitait, on l'oublie d'ailleurs aujourd'hui à quel point on voit de Gaulle comme un personnage charismatique et qui suscitait un élan unanime. C'est pas vrai. Il était attaqué très très durement et non seulement, on le voit au moment de cette campagne, par la gauche et par le centre. Le centre désapprouvait surtout sa politique étrangère et la gauche, avec toutes ses variantes, désapprouvait sa politique sociale et puis plus généralement le tour qu'il avait donné aux institutions et qui était profondément en rupture avec les usages de la Troisième et de la Quatrième République, qui étaient considérés comme intangibles.
Semaine après semaine, après qu'il s'est déclaré le 4 novembre, les sondages en faveur du général de Gaulle baissent, passent sous les 50% le 24 novembre. Il croit volontiers le général de Gaulle. Vous avez été son biographe aussi, Éric Roussel, aux techniques d'apparence moderne, non ? Au sondage.
Oui, il n'y est pas du tout indifférent. D'ailleurs, pendant la guerre, il s'y est plié. Enfin, il s'est... Mais il pense que son personnage historique est encore suffisamment important. Enfin, pour que qu'il n'ait pas besoin d'intervenir dans cette campagne.
Et il ne le fait pas. Il le fait pas. Tout dernier jour de l'avant premier tour.
Oui, ce qui sera une erreur.
Oui, parce que ses interventions passent mal. Il est quand même prévenu qu'il va être mis en ballottage, il le sent.
Inscrit 28 914 581. Votants 24 502 916. Exprimés 24 254 556. Jean-Louis Tixier-Vignancourt 1 268 208, 5,154%. Jean Le Canuet 3 777 120, 15,569%. François Mitran, 7 694 005, 31,714% des suffrages. Charles de Gaulle, 10 828 521 voix, 44,35%.
La voix drôle de voix, profonde et saccadée. La voix qu'on écoutait tout bas, les portes bien fermées. La voix qui racontait une France à ton goût, moi. Quand elle va se taire, je te parie 100 sous, ouais. Le nom drôle de nom, écrit sur l'ouragan. Quatre murs de l'horizon, claquant comme un slogan. Ce nom qui te parlait de chez toi, de chez nous, ouais. Ce nom qui chante clair, je te parie 100 sous, que tu le regretteras.
Dramatisation de la campagne après cette mise en ballottage inouïe du général de Gaulle. 45% des voix seulement. Delanoë, je parle du parolier, Pierre, et Bécaud, Gilbert, viennent à la rescousse. Alors, Mitterrand est comme porté par une vague. Et alors, si on continue avec les images idiotes, Éric Roussel, il va faire feu de tout bois.
Oui, il va faire feu de tout bois, il va coaliser contre le général de Gaulle toutes les sensibilités qui ne se reconnaissent pas dans le gaullisme.
Vous pouvez nous raconter, puisque vous parliez des meetings du Sud-Ouest, le meeting de Toulouse. Toulouse, oui. Dans les meetings de l'histoire socialiste, c'est toujours très important.
C'est une histoire qui m'a été racontée par une collaboratrice de François Mitterrand, Laurence Soudet. Donc François Mitterrand va se rendre à Toulouse pour ce grand meeting qui devait clore la campagne présidentielle. Et il se trouve, l'avion qui conduisait François Mitterrand là-bas avait été affrété par un vieil ami de François Mitterrand, qui était le général de Bénouville.
Ex-Action française et numéro 2 de M.
Mais
Dassault.
Qui était son ami d'enfance, on peut dire un de ses plus vieux amis. Donc l'avion affrété par Bénouville. Et puis en bas, quand l'avion arrive, au bas de l'échelle, Laurent Soudet voit un personnage assez bel homme, qu'elle remarque en raison de son physique. Elle demande à François Mitterrand, mais qui est ce personnage? Mitterrand lui dit, écoutez, je vous dirai ça plus tard. Et ce personnage, c'était René Bousquet.
Qui était très influent à la Dépêche du Midi,
journal de gauche. Il faut dire qu'il dirigeait la Dépêche et qui aussi jouait un rôle dans le financement de la campagne.
Mais puisque Mitterrand dit, je ne trie pas entre les voix, qui prend les voix des communistes, qui prend les voix de Jean Le Canuet, qui les lui offre à demi, et qu'il prend les voix de l'extrême droite, puisqu'il y a alliance objective avec l'extrême droite, il y a des gens qui disent au général de Gaulle, de ses amis, on va ressortir l'affaire de la Francisque que reçut des mains du maréchal le jeune François Mitterrand.
L'affaire de la Francisque a été connue. On savait que François Mitterrand avait simplement n'en parlait plus beaucoup. Peut-être parce qu'il y avait aussi d'autres personnages qui occupaient des fonctions assez importantes au sein du gouvernement ou des institutions de la Ve République qui l'avaient reçu également. Non, ce qu'on ne savait pas, c'est que François Mitterrand avait été reçu par le maréchal Pétain, il était tout jeune. Mais bon, c'était reçu très très longtemps. On a découvert cette photo lorsque Pierre Péan a publié son livre en 1994. Mais cette photo, apparemment, était connue, en tout cas du ministère de l'Intérieur. Et on avait proposé au général de Gaulle de l'utiliser contre François Mitterrand.
Et il répondit.
Et d'après Alain Perfitte, il aurait répondu, écoute, il serait opposé. Avec cet argument, ce personnage est susceptible un jour d'être élu président de la République et il ne faut pas porter atteinte à la fonction.
Le général accepte de s'engager beaucoup plus que dans la campagne du premier tour. Il accepte même de recevoir un journaliste. Le journaliste, c'est Michel Droit. Michel Droit lit des questions qui ont été fabriquées à partir des sondages de l'IFOP. Il s'agit souvent de problèmes extrêmement matériels qui concernent la ménagère de moins et de plus de 50 ans.
La France, c'est tous les Français. C'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite, la France. Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche me déclarent que j'appartiens à l'autre côté prouve que maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. Il y a, pour ce qui est de la France, ce qui se passe dans une maison, la maîtresse de maison, la ménagère, elle veut avoir un aspirateur, elle veut avoir un frigidaire, elle veut avoir une machine à laver, et même, si c'est possible, veut qu'on ait une auto. Ça, c'est le mouvement. Mais en même temps, elle ne veut pas que son mari s'en aille bambocher de toutes parts, que les garçons mettent les pieds sur la table, et que les filles ne rentrent pas la nuit. Ça, c'est l'ordre. Et la ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Eh bien, c'est vrai aussi pour la France. Il faut le progrès, il ne faut pas la pagaille.
Ça a joué l'interview avec Michel Droit dans les résultats finaux le 19 décembre. 55 pour le général de Gaulle, 45 pour François Mitterrand. Si vous voulez vous projeter un peu vers l'avenir, Éric Roussel, pour finir, qu'est-ce qu'elle annonce cette élection ?
Elle annonce incontestablement une nouvelle ère où tout va s'ordonner autour de cette élection présidentielle. D'ailleurs, ça a été l'idée du général de Gaulle en 1962, lorsqu'il a institué l'élection du président de la République au suffrage universel. Mais en même temps, plus le temps va passer, plus l'analyse que faisait Pierre Mendès-France s'est révélée relativement juste, dans la mesure où les techniques de communication ont pris un peu le dessus sur le fond du débat. Donc le débat s'est appauvri. Je crois que c'est une évolution qu'il est difficile de contester.
C'est-à-dire que les programmes sont réduits à un timbre poste, et ce qui compte, c'est le petit écran. Et puis ensuite, les nouveaux moyens de communication.
Et puis il y a un autre phénomène, alors ça qui est lié à l'évolution du monde, à savoir que évidemment tout ne dépend plus du président de la République française et qu'on est dans un monde beaucoup plus interdépendant et que voilà, donc c'est décalage.
Merci à vous, Éric Roussel. Je rappelle que votre François Mitterrand vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Mathieu Vidard, alors puisque on élargit vers le vaste monde, je reprends les mots d'Éric Roussel, vous aussi bien sûr dans La Tête au Carré.
Et les liens entre l'art et l'astronomie.
L'astronomie. Tiens, on n'a pas parlé des voyantes, mais c'est l'astrologie. Dans la campagne présidentielle de 65, elles ont joué un rôle. Ce sera pour une autre fois.